21h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure de Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Écrire. Écrire pour soi, écrire pour l'autre. On écrit pour se parcourir, comme le dit Henri Michaud, ou pour partir à la rencontre du monde et de ceux qui y habitent. Tracer des mots sur une page, la remplir de signes, pour raconter une histoire. Pourquoi d'ailleurs inventons les histoires qui peuplent les romans ? Que dévoilent-elles de leurs auteurs et de leur façon de percevoir le monde qui les entoure et qui nous entoure ? Si l'on en croit Nabokov, l'art d'écrire est un art très futile s'il n'implique pas avant tout l'art de voir le monde comme un potentiel de fiction. Si le monde est une ressource sans fin et sans fond d'histoire, alors le rôle de l'écrivain serait d'aller pêcher celles qui tiendront les lecteurs en haleine jusqu'au bout de la nuit ou qui les emmèneront dans un voyage justement fictionnel. Quel type d'appât choisir ? Comment savoir quand une histoire est prête à être dégustée ou quand elle doit être rejetée à l'eau ? Pourquoi écrit-on des romans aujourd'hui et comment devient-on écrivain ? Si notre monde est une source inépuisable de fiction, il brille aussi par ses multiples paradoxes. Qu'est-ce qu'être un auteur de fiction dans un monde où l'on veut, en même temps, tout savoir sur tout, où les experts en tout genre règnent en maître, mais où l'on passe une bonne partie de son temps à s'évader du quotidien devant des séries télé. Et puis comment ce monde peut-il s'inspirer et peut-il inspirer les auteurs ? Et si les sources de fiction se tarissaient, serait-il alors toujours possible d'inventer des histoires, de raconter la vie de personnages fictifs, de les faire grandir, évoluer ou mourir ? Et ces personnages, d'où viennent-ils d'ailleurs ? Ont-ils une vie en dehors de leur créateur ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous changerons ce soir un peu les règles du jeu puisque notre invité Astrid Manfredi n'est pas philosophe mais écrivain, auteur de deux romans publiés chez Belfond, La Petite Barbare en 2015 et Havre Nuit en 2017. Bonsoir Astrid.
Bonsoir Mélanie, merci de me recevoir.
Merci à toi d'être parmi nous. Et puis le changement, entraînement, le changement. Je serai ce soir accompagnée dans l'animation de cette émission par Edouard qui intègre la petite équipe de Déshabillez-moi. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous.
On ensemble jusqu'à 22h, c'est Déshabillez-moi sur Radio Campus Paris.
Et vous ?
Déshabillez-vous !
Eh bien Edouard, je pense que c'est à toi.
D'accord.
Allez, on se lance dans le grand bain tout de suite.
Bienvenue à Astrid Manfredi. On dit toujours que le deuxième roman est plus difficile à écrire que le premier. Surtout quand le premier a bénéficié d'un succès critique unanime. Comment s'est passée l'écriture justement de Havre Nuit ?
En fait, j'avais commencé Havre Nuit, le fil d'Ariane de Havre Nuit, avant La Petite Barbare. Hein. C'était mon idée première de roman.
D'accord.
Voilà, ce premier, en fait, ça devait être même mon premier roman. Mais j'avais laissé ça dans un petit coin. Voilà, j'avais envie d'écrire un roman noir. J'avais eu un coup de cœur sur la ville du Havre. Quand j'étais allée la visiter, parce que j'aime bien voilà, me balader comme ça en France, dans des villes un peu voilà, qu'on prétend pas forcément jolies et qui se révèlent avoir un potentiel en fait romanesque voilà, qui est très séduisant. Et ça a été le cas pour Le Havre, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville. Alors on me disait, mais non, on va pas là-bas, qu'est-ce que tu veux faire là-bas ? Enfin bref, les gens me décourageaient d'y aller. Et en fait, je m'y suis rendue et voilà, une vraie sensation de... Vraiment un coup de cœur quoi. J'ai aimé l'architecture, j'ai aimé les galets, j'ai aimé à la fois le côté dimension rectiligne de la ville, sa sauvagerie, en même temps voilà aussi les cargos qui partent comme ça chargés de containers avec tous ces gens qui regardent et qui bien souvent ne les prennent pas et qui eux ne partent pas parce que c'est aussi une région quand même assez paupérisée. Et voilà, donc j'ai voulu écrire sur cette ville et j'ai eu envie que des personnages s'inscrivent dans cette architecture. Donc l'écriture, voilà, j'avais une petite trame comme ça dans ma tête, et après celle de la petite barbare a été prédominante. Il y avait l'urgence d'écrire la petite barbare, ça a été un jaillissement, et j'ai mis de côté donc cet autre projet littéraire, donc ce premier projet littéraire qui était Havre-Nuit. Et puis une fois la petite barbare terminée, parce que l'écriture c'est un côté addictif, hein.
Bien sûr.
Voilà, c'est une fois qu'on y a goûté, eh ben je sais pas quoi, c'est on peut plus s'en passer, c'est voilà, à la fois il y a une grande difficulté, ça peut être aussi une source de souffrance parce que les idées peuvent parfois se tarir, il faut aussi se ressourcer soi-même pour réalimenter son imaginaire. Mais bon, finalement j'ai un côté assez discipliné, je me suis organisée un peu comme pour la petite barbare, tous les lundis, voilà, de 20h à minuit, je me disais voilà, je vais me mettre à l'écriture de mon second roman. Il faut avoir une discipline pour écrire.
Ouais. Mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Donc cette discipline, comment tu arrives à trouver toi ton rythme dans l'écriture? C'est le lundi de 20h à minuit, c'est quelque chose que tu t'es fixé comme ça, ouais, arbitrairement, ou est-ce que c'est en tâtonnant que tu as trouvé ce rythme-là?
Bah, il a fallu que je mette en place une règle, parce que je suis un peu dilettante, hein, non, sinon voilà, je me laisse un peu aller à la rêverie, ce qui est bien aussi, hein, mais si je me fixe pas quelque chose de clair, un objectif clair, j'ai pas forcément le faire, et puis j'ai envie d'aboutir à un projet, donc c'est pas du dilettantisme à l'écriture, ça demande vraiment une discipline. C'est là pour toutes celles et ceux qui ont des velléités d'écriture, là je veux dire, il faut quand même se fixer des objectifs clairs. Et j'ai choisi le lundi, ça aurait pu être un autre jour. Après, j'ai des entorses quand même. Hein. Je suis pas non plus, c'est pas non plus la discipline militaire.
C'est pas qu'ancienne.
Non, non. Et j'essaye d'avoir quand même, bon, y a des moments. Mais la phase vraiment de ce qu'on appelle le premier jet, c'est-à-dire c'est vraiment l'intention, l'idée, c'est pas forcément écrit à la perfection, mais je veux pas me brider dans mes idées, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes stylistiques, je les revois dans un second temps, mais si mon idée, il faut qu'elle jaillisse cette idée, et si je commence à la camisoler, pour moi elle va perdre en spontanéité, et je crois un petit peu comme l'acteur, hein, qui tâtonne et puis parfois qui est meilleur même sur ses premières répétitions. Moi je crois comme ça à la force du premier jet. Et ensuite, je reviens sur la stylistique, je reviens sur la réflexion si nécessaire. Mais j'aime bien ce côté réflexion comme ça, un peu brute, pour ensuite venir l'émailler peut-être de choses un petit peu plus subtiles. Mais je garde cette spontanéité. Pour moi, c'est important. Et c'est peut-être aussi pour ça que quand on me dit on lit ton livre comme ça, un petit peu comme dans un souffle. Et c'est aussi peut-être parce qu'il y a ce travail très important qui est fait sur le premier jet, et que c'est quelque chose que je ne mets pas à la corbeille. De toute façon, je ne jette rien à la corbeille. Même des tout petits bouts de papier anecdotiques sur des post-it, tôt ou tard, tout me resserre. J'ai pris le parti de ne rien jeter, de tout conserver. Alors, il y a des choses que je tape sur ordinateur, j'ai des choses sur des carnets, mais tous mes fragments, voilà, je ne veux pas, je les conserve précieusement, et un moment, je les assemble. Et voilà, et ça peut... et ces fragments finissent par faire un roman. Après, il y a une seconde étape qui est de travailler sur la structure, qui est encore autre chose. Mais le laisser aller de l'imaginaire, pour moi, c'est important. On est dans une société qui nous bride tellement que cet instant d'écriture, comme ça, dans un souffle, voilà, pour moi, c'est une nécessité. Hein.
D'accord. Donc justement, Havre-Nuit raconte une histoire d'amour manquée, voire impossible. Deux destins qui se croisent. Pouvez-vous nous raconter, nous présenter qui sont Laszlo et Alice ? Ces deux héros dans cette histoire ?
Oui. Alors déjà, j'ai trouvé intéressant d'écrire un personnage masculin en tant que femme, de prendre la voix d'un homme. Et même si, bon, c'est introduit par une narratrice et que j'utilise le tu pour présenter ces deux personnages, prendre la voix d'un homme, oui, j'ai trouvé que c'était... un anti-héros, voilà, c'est, je pense, qu'un rescapé de la vie, qu'on pourrait croire complètement antipathique, un petit peu peut-être comme la petite barbare, mais qui finalement, avec ses zones d'ombre, qui finissent par s'éclaircir par certains moments, révèle aussi toute son humanité. Je crois que j'ai comme ça une appétence pour ces personnages, un petit peu les cœurs enfuis, comme disait Mauriac, les cœurs bons n'ont pas d'histoire, c'est ce qu'il disait aussi, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je le cite, et je suis assez d'accord avec lui. Tous ses romans m'ont énormément marqué, je pense à Thérèse d'Escuroux, tous ces personnages comme ça un peu ombrageux, et les empoisonneurs, les empoisonneuses, les gens qui sont un peu sur le fil du rasoir, et puis qui ne sont pas forcément fréquentables. Et Laszlo, c'est un garçon comme ça. C'est aussi le fruit d'un manque d'amour, abyssal. Et c'est ce qui le rapproche d'Alice Casabelle. C'est son... C'est sa sœur d'infortune.
Et c'est aussi ce qui les rapproche tous les deux de la petite barbare, finalement.
C'est ce qui les rapproche de la petite barbare, exactement. C'est pour ça que c'est Havre Nuit, la petite barbare, ça s'inscrit dans un triptyque, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Mais je tiens à ce lien, à ces trois textes. Et le troisième, ça sera sur l'enfermement. En fait, ce sont trois textes dont la thématique centrale est l'enfermement. Et le premier, donc, c'est l'enfermement concret au sein d'une prison. Le deuxième, c'est l'enfermement intérieur, la nuit intérieure des personnages. Et le deuxième, c'est la nuit intérieure des personnages. Et le troisième, qui s'appelle Trouver le sable, que je suis en train d'écrire, sera sur l'enfermement conjugal. Voilà, en revanche, il y aura un point de vue beaucoup plus proche de la nature, puisque ce sera face à l'océan. Et là, il y aura la possibilité du départ. Mais donc, il y a une cohérence dans la réflexion. Voilà.
Est-ce que tu continueras d'explorer, du coup, la violence aussi ou c'est,
Je continuerai d'explorer la violence conjugale, même si elle n'est pas forcément... Si c'est pas forcément une violence qui se démontre avec les poings, il y a différentes formes d'enfermement conjugal. Il y a aussi des choses, des acceptations qu'on peut avoir parce que on se sent incapable de partir, de faire bouger son existence. Et au bout d'un moment, ça devient aussi un enfermement. C'est des personnages en proie à leur propre enfermement. C'est le cas dans Havre Nuit. On voit bien que Alice, malgré tout, elle a quand même la manche face à elle et elle pourrait prendre ce départ dans la façon dont je la présente dans la première page. Elle le dit, j'aurais pu partir, mais je suis en proie à la dépression des cieux. C'est-à-dire comme prise au piège dans cet environnement. Et en fait, cette prise au piège dans cet environnement, dans cette architecture du Havre, dans cette ville, c'est aussi un piège qui est beaucoup plus lointain, qui vient de son éducation, de ce manque qu'elle aussi a reçu. Qu'est-ce qui relie à Laszlo et Alice? C'est les difficultés familiales, la difficulté à trouver de l'amour au sein de la cellule familiale, et cela fait d'eux des personnes handicapées du cœur.
Mais d'ailleurs, Laszlo arrive à partir, enfin part et revient. Il est quand même, lui, dans le mouvement, même s'il est... Alors, pour le coup, j'imagine que l'enfermement est plus intérieur, oui. Mais il arrive quand même à s'échapper de cette ville, à y revenir. Justement, comment les parcours des personnages, tu les as dessinés? Pourquoi l'un est enfermé là où il est, l'autre peut voyager, il se rencontre d'ailleurs à Paris, pas du tout au Havre. Comment tu as pensé ces parcours et ces chemins un peu différents de l'un et de l'autre?
Mais il faut voir qu'il y a aussi une dimension thriller dans le texte. Donc Laszlo est quelqu'un qui est un meurtrier, donc il faut bien qu'il s'enfuit.
On peut le dire quand même.
C'est vrai qu'il doit prendre la fuite, donc il a un peu recherché. Et en même temps, il a un don d'invisibilité, donc il aurait pu rester en place. Ça, je le montre aussi dans le texte, parce que il est énigmatique, il est presque fantomatique à se demander s'il est bien réel. Mm-hmm. J'avais envie de jouer sur ça, quoi. C'est est-ce qu'il n'est pas le fruit d'une fantasmagorie féminine? Est-il bien réel? Donc c'est pour ça que je lui donne un peu ce don d'invisibilité. Il est à un moment, alors qu'il commet des choses effroyables, il ne laisse aucun indice. Donc son existence, c'est presque la remise en cause de son existence, à se demander s'il n'est pas le fruit, donc, comme je viens de le dire, d'une imagination d'Alice qui est follement amoureuse de lui. Donc lui, il voyage, oui, et parce qu'il a... puis c'est un jouisseur aussi, il y a cette phrase qui dit « jouissez sans entrave », donc pour jouir sans entrave, il faut... c'est aussi géographique, c'est un parcours aussi... un fugueur érotique.
Ce qui est intéressant, c'est que tu viens de rappeler que c'est un thriller et parfois on l'oublie en fait, parce qu'en fait déjà il y a pas beaucoup de suspense, puisque dès le départ, en fait, tu annonces la couleur. D'ailleurs, même sur la quatrième de couverture, oui, on sait tout de suite que c'est un tueur en série. Et c'est pas quelque chose qu'on découvre au fil de la lecture. Alors, ce que tu as essayé de faire, j'imagine, c'est justement de sur fond de thriller, de construire une histoire qui ne se résume pas uniquement à ça. Alors, pourquoi ne pas avoir mis plus en avant le côté thriller? Pourquoi pas avoir voulu conserver une sorte de suspense de qui est Laszlo? C'était pas quelque chose qui t'intéressait?
Non, ça m'intéresse pas, parce que je pense que... je préfère le roman noir, d'ailleurs, le terme roman noir. Je pense par exemple à un texte comme Le Dahlia noir de James Ellroy, qui est un grand monument du genre, assez inégalé. On sait tout de suite que voilà, il a tué cette femme. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment... Le suspense n'est pas au cœur du récit. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas... En plus, ça demande des rouages, une mécanique d'écriture, une grande maîtrise, une grande technicité aussi que... j'ai la modestie de dire que je n'ai pas. Voilà, j'avais pas envie de jouer sur ce registre, sur ces allers-retours de suspense, parce que d'une part, je les maîtrise pas, et puis c'est pas ma fibre. C'est un peu un prétexte, un peu comme j'avais utilisé le prétexte du fait divers dans La Petite Barbare pour fondamentalement dire autre chose. Et c'est aussi le cas de Havre Nuit. C'est un roman d'amour, c'est un roman sociétal, c'est un roman quand même, c'est une feuille de température quelque part de notre société, Havre Nuit, comme l'était aussi La Petite Barbare. C'est surtout ça, en sous-texte, qui m'intéresse de dire, à travers ces personnages un peu... c'est laissé pour compte, hein, c'est laissé pour compte disent quelque chose, justement, du monde dans lequel on vit. Et la technique du thriller, le côté un peu... la ruse narrative du thriller, c'est pour donner aussi un peu de rythme, parce que je trouve intéressant le côté rythmé dans l'écriture, et aussi pour le lecteur. Moi, j'apprécie la musicalité en tant que lectrice quand je lis un texte, et je me mets à la place un petit peu du lecteur, et je trouve que c'est toujours ça a un côté, ça happe, c'est un peu une mélodie, quoi. C'est la feuille blanche, pour moi c'est une partition que je remplis, non pas avec des notes mais avec des mots, et je trouve que d'avoir pris la dimension thriller, ça pouvait rajouter quelque chose au rythme du texte. Et le détournement aussi est intéressant, et je suis pas la seule à le faire, hein. Il y a beaucoup d'auteurs aux éditions de Minuit qui utilisent par exemple cette technique. Chez Minuit, il y a beaucoup d'auteurs qui sont proches du roman noir, bon, avec une écriture plus blanche que la mienne, mais je pense par exemple à un texte que j'aime beaucoup, qui est Viviane Elisabeth Fauville de Julia Deck. Elle est clairement presque dans le thriller, hein, quand on lit son texte, et elle dit fondamentalement autre chose. Donc voilà, on va dire que c'est un artifice narratif, mais pas artifice au sens péjoratif du terme.
Oui, c'est pas quelque chose d'artificiel, voilà. Mais ce serait quelque chose... Ouais, d'accord. C'est plus l'essence même du roman. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette manière dont tu alternes les narrations, le je, le tu, le il, le vous, sachant que la personne qui dit je, en fait, c'est un personnage qui est secondaire, hein, qu'on rencontre au début, qu'on re-rencontre à la fin du roman, mais qui finalement n'est pas si présente que ça pour le reste de l'histoire. Alors, comment t'as construit ces choix-là? Pourquoi on fait des allers-retours entre le « e », le « je », le « il », le « nous » et puis le « vous » Et puis, surtout, quelle est la place, du coup, notre place à nous? Où on se situe, nous, lecteurs, dans ce jeu des « jeux » et des « ils »
En fait, j'ai fait plusieurs essais. J'avais écrit d'abord tout le texte avec le « je ». Et c'est en quelque sorte un roman polyphonique, puisqu'il y a plusieurs voix. Donc,
c'est ton côté corse, ça, non?
Voilà. et le jeu, c'était pas identifiable, utiliser le jeu pour chaque personnage. Je trouvais que l'écrire à la troisième personne, ça donnait une dimension un peu trop classique. J'avais pas envie d'être dans ce classicisme-là. Et j'ai fait plein d'essais. Et à un moment, j'avais pas introduit de narrateur, hein, dans les premiers jets, dans la première épreuve du texte. Et j'en étais pas contente. Et c'est à partir du moment où j'ai introduit cette narratrice qui à la fois est certes secondaire, mais en même temps c'est la conteuse presque, hein. Donc secondaire mais finalement très importante, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic d'utiliser ces différents pronoms. Alors le tu, c'est la proximité hein, qu'elle a avec Alice et Laszlo, puisque là je peux pas dévoiler le texte parce que on va dire qu'il y a un mini suspense,
quand
mais
même.
Bon, voilà, il y a une proximité quand même entre cette narratrice et les deux protagonistes que sont Alice et Laszlo. Et ensuite, la narratrice évoque les parents de Alice et Laszlo, donc Fabio Casabelle qui est le père de Alice et Lisette Talandier qui est la maman de Laszlo. Et là, pour mettre un petit peu à distance, je ne pouvais pas employer le tu. Et j'ai trouvé que d'utiliser le vouvoiement pour les parents, ça plaçait, c'était un autre positionnement, même moi aussi, par rapport à l'écriture. Et cette espèce d'aller-retour, finalement, je me demandais s'il allait fonctionner. Puis plus je me relisais, puis je me disais, mais finalement, ça fonctionne. Surtout qu'il y a des inserts en italique qui permettent de présenter les personnages. Donc ça ne vient pas comme des cheveux sur la soupe. Et... par je ne sais quelle alchimie, essentiellement liée au rythme, hein, je me répète, mais c'est très important pour moi, j'ai trouvé que l'utilisation de ces différents pronoms était intéressante, qu'on était dans une espèce de chant comme ça, de cœur presque. Hein. Et la place du lecteur, le lecteur c'est le troisième œil, hein. C'est le poste d'observateur qui, je l'espère, prend du plaisir, et de voyeur aussi. Donc il y a une forme de voyeurisme. Et puis il peut s'approprier. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à Alice, des lecteurs qui vont être plus sensibles à Alice, d'autres à Laszlo, d'autres à Fabio. Les gens, je crois que on peut s'approprier au moins l'un des quatre personnages. Ou on va dire ceux qui sont plus empathiques, peut-être s'approprier même les quatre, ou réussir à faire un tout de tout cela. Je sais pas, après le rapport à la lecture, c'est aussi très singulier, très personnel. Ça dépend à quelle heure du jour ou de la nuit on lit. Ça dépend si on est bien luné ou pas. Ça dépend si on lit dans le métro, si on lit dans son lit. Il y a plein de contextes aussi qui favorisent ou non la lecture. Et puis, sa propre culture, sa propre envie. La séduction aussi qu'exerce le style. C'est aussi, c'est un ensemble comme ça de plein de choses qui font que le lecteur choisit la place qu'il a envie, dont qu'il souhaite. Hein, on ne peut pas se mettre à la place du lecteur. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'il y a autant de lectures que de lecteurs. Et il y a des gens qui vont voir un thriller pur et simple, et d'autres qui vont voir un roman en fait très intimiste, c'est profondément un texte sur l'intime, et puis d'autres qui vont voir un roman d'amour, et puis d'autres qui vont voir un roman sur une ville, et puis d'autres qui vont voir un roman familial. Et je pense que il y a un angle très très vaste de point de vue et aussi d'approche du texte. Et que chacun, selon sa sensibilité, son désir, se fasse son opinion. Je trouve que c'est bien justement de laisser cette liberté, d'orienter le texte selon sa propre liberté, alors qu'on est comme ça très tenu en laisse, très conditionné, dans des façons de penser. Laissons au moins au livre ce pouvoir magique de nous, d'évasion.
Justement, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de La Vraie Nuit ?
Je ne sais pas si.
Ah, si, allez, s'il te plaît.
Mais justement, je voulais parler. Il y avait un extrait que j'avais retenu, puisque tu venais de parler de Mélanie du voyage.
Oui.
Et tu disais que Laszlo voyageait. Et je vais l'illustrer par un passage.
Bah, c'est parfait.
Voilà.
On t'écoute.
C'est à la page 69. Les longues années qui suivront feront de toi un vagabond sans escorte. Un adulte à l'allure juvénile auquel il sera impossible de donner un âge, tant tu veilleras à camoufler les aspérités de ta physionomie. Tu seras le type éternellement assis sur des tabourets de bar, dont on ne recherchera pas la conversation, et qui pour gagner sa croûte s'abîmera les mains à la plonge des restaurants. Tu convoleras en des noces impies, et les destinations les plus improbables auront ta préférence, car il faudra que tu l'expulses de ta tête. On te trouvera sur les plages du Cap-Vert, assailli de détrousseurs qui ne te détrousseront pas. On te trouvera aux portes de déserts vides d'oasis, où les scorpions et les reptiles te tiendront compagnie. On te trouvera au Burkina Faso, arme lourde à la main, mercenaire à la solde d'état fantoche. On te trouvera sur des lits moites de Bangkok, entouré de poupées de Siam mutiques. On te trouvera dans des bureaux de poste sans guichetier, où tu réceptionneras des cartes postales et des tricots de toutes les couleurs. On t'incarcérera dans des geôles qui finiront par devenir des toits. On te mariera à une écervelée de 15 ans aux grosses lèvres entreprenantes qui sera dévorée par les alligators. On te baisera, on te torturera, on te couvrira d'or et de breloques. On te fera boire l'eau du Nil, celle du Gange et des mers mortes. On baisera tes pieds en Afrique subsaharienne et on te laissera pour morte dans une rizière de Bali. Sac en bandoulière, clope au bec, les pieds fourbus, tu arpenteras les continents du vide et boiras des alcools frelatés qui grêleront tes tripes et anesthésieront ton indignité. Tes épaules se voûteront, ta peau s'écaillera. Seul le blouson de cuir héritage de ton père ne quittera pas ta cuirasse assassinée par l'exil.
Les 6 heures au clocher de l'église, dans le square des fleurs, poétise, une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. D'une rencontre, je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le silence immobile. D'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix.
Avec les mots bleus sur Radio Campus Paris, c'est toujours Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Alors Astrid, c'est un choix de ta part d'écouter ce morceau, cette reprise par Alain Bachung des mots bleus. Alors pourquoi ce choix?
Déjà, parce qu'Alain Bachung est présent dans le texte aussi de Havre Nuit. Alors il y a la chanson un peu fil conducteur, c'est La nuit je mens. Mais comme je l'ai beaucoup écouté en écrivant le livre, et puis j'en ai déjà parlé, j'avais... envie de trouver une chanson de Bachung. J'aurais pu en trouver d'autres, mais celle-ci, effectivement, elle n'est pas de lui, c'est Christophe. Hein. C'est un texte de Christophe, et, que j'aime beaucoup aussi, et repris par Bachung. Et c'est aussi sur la difficulté d'aimer, sur la difficulté de dire son amour. Je lui dirais les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Et Laszlo et Alice, il y a quand même cette espèce de chassé-croisé... qui se passe aussi par le regard, parce qu'il y a une sorte de rencontre comme ça, alchimique, qui se fait par le regard, et sur laquelle ils ne mettent pas de chair. Donc, en fait, c'est extrêmement romantique. Ce sont deux grands romantiques.
Et justement, c'est parce qu'ils sont deux grands romantiques qu'ils n'arriveront pas à créer cette.
Et je dis ça avec beaucoup de fierté, hein, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup.
Alors, il y a un autre personnage qui est très important, et on l'a déjà évoqué tout à l'heure dans Havre Nuit, c'est bien sûr la ville du Havre.
Oui.
Et donc, je t'ai proposé de choisir deux extraits de film, et tu m'as proposé un film d'Aki Korismaki qui s'appelle justement Le Havre. Alors, on va écouter un petit extrait.
C'est là où tu veux aller. C'est de l'autre côté. Ici, c'est le Havre.
Il faut toujours que tu gaspilles dès que je m'absente un instant.
Oh, je les ai eus pour presque rien. Ils étaient en solde. Moi, le soir, je prends un verre. Ça fait ressortir les meilleures parties de l'homme. Ça aurait pu être une carte de métro, monseigneur.
Il n'y a pas de métro au Havre, le papier. Nous cherchons un petit garçon noir. On l'a vu dans les environs.
Pourrais-tu cacher le garçon chez toi en cas de besoin ?
Évidemment.
Quelqu'un de chez lui ? La famille ?
Personne, seulement son chien.
Pourquoi ce choix de ce film d'Aki Korismaki ?
Bon, déjà, je suis complètement... C'était beau d'entendre cet extrait, là. Je suis bouleversée par ce Céline cinéaste, par son sens esthétique, son humanité aussi. Voilà, son regard sur les petites gens. Et tu parlais des petits riens tout à l'heure, c'était très joli. Mais voilà, c'est ça aussi le Havre de Korismaki. C'est tous ces petits riens de l'existence, tous ces petits biens qu'on peut se faire, tous ces regards qu'on peut se porter les uns sur les autres, les rencontres humaines. C'est vraiment un grand cinéaste de la rencontre humaine, de ces gens qui a priori n'ont rien pour se rencontrer, ne sont pas faits pour se rencontrer et qui pourraient même mal se juger, puis qui finissent par se rencontrer. Et en fait, c'est toujours par la rencontre que peut naître quelque chose de beau, par le regard que l'on pose l'un sur l'autre. Et là, à partir de ce moment-là, les jugements hâtifs s'éloignent, les préjugés s'éloignent. Et voilà, cette rencontre entre ce vieux monsieur comme ça, voilà, ces personnages toujours un peu rudes, un peu durs au mal, un peu antipathiques, et ce petit garçon. Et puis, voilà, finalement, il y a pas de racisme, il y a plus de haine de l'autre. Voilà, il y a quelque chose qui se crée, et c'est un grand poète, Korismaki, et un grand cinéaste aussi, un sens du cadrage et de la lumière magnifique, un esthète, de la mise en scène, et puis... Voilà, il y a un esprit, c'est très théâtralisé, hein. Il faut aimer aussi les plans très cadrés, presque fixes. Mais j'aime bien ces arrêts sur image. C'est un cinéaste qui prend le temps. C'est encore un cinéaste qui prend le temps et c'est tellement rare.
Un photographe du temps.
Exactement, peut-être. Un photographe du temps, tout à fait.
Et ce qui est intéressant, c'est que ta manière d'écrire, elle lui ressemble un petit peu, enfin, de ce que tu en dis, cette manière de prendre le temps, justement, tout en étant dans l'urgence, de s'arrêter sur les personnages, de creuser plus, sans vouloir aller trop vite, sans justement en laissant le temps aux choses et aux liens et aux rencontres, le temps de se faire.
Tout à fait. Ben, comme quoi, on ne peut pas écrire sans avoir un œil sur les très, très ouverts, sur les autres disciplines artistiques, que ce soit le cinéma, la philosophie, la vidéo, la photographie. Moi, j'ai plein d'éléments quand j'écris. Hein. J'ai un petit monde, voilà. Et je m'immerge dans ce petit monde et je me sers de tous ces éléments. Je suis pas... J'attends pas l'inspiration sur ma chaise avec tu vois, le truc divin qui me tombe sur la tête. Non, non, c'est une partie d'un tout. C'est, tous ces éléments me servent. Et oui, Le Havre de Korismaki, voilà, grand souvenir de cinéma. Oui.
Le Havre, justement. Pourquoi cette ville ? Qu'est-ce qu'elle a inspiré dans le roman ? Ou qu'est-ce que le roman lui inspire, en fait ? Tout simplement, une sorte d'image, de miroir, en fait, par rapport à... On a bien sûr l'idée reçue du Havre comme quelque chose de lugubre, de mystérieux, de pauvre, miséreux, en fait, qui ne s'y passe rien, en fait. Justement.
Eh bien, justement, non.
Voilà.
En plus, je tenais à le dire, là, c'est paru là, l'autre jour dans le journal, mais à partir du mois de mai, le Port du Havre va fêter ses 500 ans. Et c'est un monsieur, je crois très bien, qui s'occupe en plus de toute la mise en scène autour de cet événement culturel qui s'occupe des Nuits Blanches à Paris et aussi des... du palais de Tokyo, donc voilà, et de choses à Nantes, donc il va y avoir un gros buzz médiatique qui va être fait autour du Havre. Et je suis très très contente que cette ville injustement considérée soit enfin mise en lumière avec en plus le Havre et le texte à la base, même le premier titre que j'avais choisi, c'était Bauhaus.
D'accord.
En référence au mouvement architectural, donc que j'aime beaucoup, qui est né sous la République de Weimar en 19, et c'était un crève-cœur même de devoir m'en séparer, parce que Bauhaus, pourquoi ? Parce que donc le Havre, ville détruite par les bombardements alliés, hein, et reconstruite ensuite par Auguste Perret, et au niveau social, ça voulait dire beaucoup, hein, parce que ce qu'on trouve très laid, finalement, les gens étaient très très heureux, hein, de se retrouver dedans à la fin de la guerre. Pour la première fois, ils avaient des espaces avec des grandes baies vitrées, ils avaient les sanitaires, ils avaient une salle de bain, ils avaient un salon avec des meubles déjà très très pratiques pour faciliter leur quotidien. Donc c'était d'une modernité. Quand on visite l'appartement témoin de Auguste Perret, je vous assure qu'on veut ramener des choses aujourd'hui encore chez soi, tellement c'est un visionnaire en fait de l'architecture. Et j'aime bien l'architecture, ouais. Je trouve que voilà, moi cette architecture elle me séduit. La cathédrale du Havre par exemple, en termes de voilà, c'est une splendeur de modernité. Et pourquoi le Havre? Parce que aussi moi j'aime les cargos. J'aime les cargos, je sais pas, ça me fascine. Allez savoir pourquoi. Les containers, je trouve ça très très beau.
Et les dockers.
Et les dockers. Mais les containers, en fait, on est dans les couleurs primaires du bois au sein. Ouais. On est dans le rouge, le jaune, et on est dans le bleu, le jaune et le rouge, qui sont vraiment les couleurs primaires du logo du Bauhaus. Et ça ne m'étonne pas que spontanément j'avais appelé mon texte comme ça. Et il y a une espèce de... Il y a à la fois des couleurs très fortes, comme ça, donc ces couleurs des containers, et en même temps le gris de l'architecture, puis le ciel de Normandie quand même. Ce ciel qui a été peint par Nicolas de Staël, par des tas de peintres, je comprends que les artistes tombent, les peintres puissent tomber amoureux de ce ciel, parce qu'il y a des variations qui sont aussi comme l'âme des personnages. On ne peut pas avoir une humeur, monochrome en habitant là-bas. On passe forcément par des fractures d'humeur, parce qu'il y a soudain un soleil éclatant, soudain une averse. Enfin, c'est un petit peu, même en Bretagne, quoi. Et moi, j'aime bien ces ciels comme ça, orageux.
Là où il fait beau plusieurs fois par jour.
Ça. C'est ça, exactement. Le climat a son importance aussi.
Bien sûr. Et dans la démarche d'écriture aussi, est-ce que tu étais, toi, au Havre quand tu as écrit, ou est-ce que tu n'as pas besoin d'être sur place pour y écrire, ou est-ce qu'au contraire, tu dois te couper d'un certain monde pour pouvoir justement te concentrer et te fermer un peu sur l'écriture? Comment ça se passe concrètement, tout ça?
J'ai un côté assez journaliste quand même. J'ai besoin de voir pour écrire. Si j'ai pas vu la ville, si je prends que des renseignements par des images, ou j'ai beaucoup de mal à écrire sur l'endroit. Alors par exemple, si je vais écrire un livre sur Chicago, je vais être un peu embêtée, parce qu'il va falloir j'ai un projet, j'y pense, c'est pour ça que je dis il va falloir que je parte là-bas.
Faut demander à ton éditeur de financer les billets d'avion, n'est-ce pas?
voilà. Mais donc il faut que je voie. Je peux pas écrire sur un lieu que j'ai pas vu. Je trouve ça. Enfin, je sais pas, j'aurais l'impression d'une forme d'un manque de sincérité, quoi. C'est d'objectivité, j'ai besoin d'avoir vu. En revanche, après, pour écrire, je peux... D'ailleurs, je l'écris à Paris, un petit peu en descendant vers le sud-ouest. Donc après, une fois que j'ai vu et que je me suis bien imprégnée de l'endroit, que j'ai pris un petit peu les ondes de l'endroit, je peux transcrire. Mais l'avoir vu, pour moi, c'est nécessaire. Voilà, je trouve que c'est très très difficile de... Autant je peux inventer la psychologie des personnages, autant le lieu, j'ai besoin d'avoir eu un contact...
T'imprégner, quoi.
Ouais, direct, voilà.
Une question qui m'est venue en lisant. Où allez-vous puiser vos histoires, en fait?
On a dit tout à l'heure qu'il y avait cette question de ce monde qui serait rempli de fiction, en fait, qu'il faudrait aller chercher, que ça capturait comme avec un panier à papillons. Ouais. Mais est-ce que du coup, comment bah, donc tu disais ça ne te tombe pas dessus par hasard, enfin, comme ça, sans dans l'attente, mais comment justement ça se construit et comment naissent ces personnages, comment on leur donne naissance? Alors c'est une question qui paraît naïve, mais bon, j'imagine qu'on les voilà, il faut les amener à la vie, ces personnages. Et d'ailleurs, est-ce que après ils continuent à vivre sans toi? Comment ils grandissent? Comment ils vieillissent, qui sont ces personnages?
Comment ils viennent, comment ils naissent sur le papier, personnages de papier. Ça a un côté un peu irréel quand même. Heureusement qu'on a une déconnexion un peu quand on écrit. C'est presque chamanique, hein. Ça fait peut-être bizarre de dire ça, mais on décroche quoi. Moi je pense qu'on a une sorte de transe quand même. Moi je le ressens comme ça. Voilà,
donc c'est une transe qui a lieu tous les lundis de 20h à minuit.
Transe organisée. Voilà, la fille qui est en transe, mais organisée. Mais comment ils naissent? Ils naissent d'expérience de vie, forcément. Ils naissent de soi. Hein. Voilà, il y a une confrontation aussi avec sa propre personne. Ils naissent de ses proches. Ils naissent de ses amis. Ils naissent de... En fait, il ne faut jamais fréquenter les écrivains. Ils naissent d'observation. Ils naissent de l'actualité. Ils naissent de beaucoup d'observations. Il faut beaucoup, beaucoup aimer les gens. C'était dur à ce qu'il dise ça. Il faut beaucoup, beaucoup aimer les hommes. Mais c'est pour écrire, mais c'est vrai. Il faut toujours être à l'affût. Je pense qu'une personne qui écrit, un romancier, une romancière, c'est un homme ou une femme à l'affût. Voilà, j'aime bien cette idée, d'être à l'affût.
Ou comme disait Deleuze, l'animal aux aguets.
C'est ça. L'homme. Voilà. Non, mais c'est tout à fait
saisir
ça.
Saisir l'éclat, en fait, de l'existence.
Saisir l'éclat de l'existence, c'est joli, ça, hein.
C'est très beau.
Voilà. Ben voilà, l'écrivain, c'est celui qui saisit l'éclat de l'existence. Ouais. Quelque chose comme ça, c'est possible.
Et alors, à quel moment, c'est une question bête, hein, mais à quel moment tu sais que terminé? À quel moment tu sais que ton livre est terminé et que c'est bon, il peut être édité et que tu n'as pas besoin d'y revenir?
Je suis au bout du rouleau.
Quand tu n'as plus un sou dans ta poche.
Que j'ai plus un sou dans ma poche, que j'ai bu 40 litres de café, fumé 50 paquets de clopes. Alors là, je me dis, bon, ma fille, il faut mettre le point final, sinon tu vas mal finir. Donc, je suis arrivée au bout, quoi. Ça, j'ai tiré la plotte, le fil d'Ariane jusqu'au bout. Je sens que j'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis moi, j'ai une écriture quand même assez ramassée, quoi. Voilà, comme ça, j'aime pas trop rentrer dans les tiroirs, des tiroirs, des tiroirs. Donc, voilà, le point final, il s'impose à moi. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the
Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Take a walk on the wild side avec un magnifique anglais, c'était Laurine sur Radio Campus Paris, c'est toujours des habits et moi.
Des habits et moi.
Encore un choix d'Astrid Manfredi, donc auteur de Havre Nuit, je le rappelle, qui est avec nous ce soir. Alors pourquoi ce choix de Laurine ?
Parce que je l'aime bien et parce que je regrette sa disparition. J'aimais beaucoup le Velvet Underground et après le travail aussi qu'il a fait en solo. J'aime bien le personnage, j'aime bien la liberté, j'aime bien sa liberté. J'aime bien son monde, un peu déjanté, un peu sombre. Et je trouve que voilà, ça correspond à l'univers d'Alice et de Laszlo. Ils auraient pu se faire un... Se bécoter quelques petits peu sur cette chanson.
Après une partie de Flipper, c'est bien ça.
Voilà.
Et alors justement, on va écouter un extrait d'un film aussi qui t'a beaucoup inspiré, qui t'a inspiré dans l'écriture d'Alice et Laszlo, Ascenseur pour l'échafaud. Tu me disais tout à l'heure que c'est ce moment où Jeanne Moreau est en train de déambuler, de marcher sous la pluie. Ouais. T'a beaucoup inspiré pour Alice.
Pour écrire, j'aime bien aussi... ça c'est parce que j'aime bien la littérature américaine, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé ça aussi pour construire mes personnages, c'est les décrire par la posture physique, c'est-à-dire que de pas forcément rentrer dans le psychologisme, mais que l'attitude, la façon dont ils se tiennent, dont ils déambulent, dont ils s'asseyent, dont ils dorment, bref, la façon dont leur corps bouge est un indicateur aussi de leur psychologie. Et c'est très utilisé en littérature américaine où le rapport à justement peut-être à la psychologie est moins important que dans la littérature française. Et pour écrire Alice, j'avais besoin de la fixer en image. Et c'est vrai que cette déambulation, mais magistrale quand même, hein, de Jeanne Moreau avec la musique de Miles Davis, je ne dévoilerai pas le film, mais c'est vraiment la façon de marcher de Jeanne Moreau qui, quelque part, m'a permis d'écrire la mélancolie de Alice, son trench, la façon de relever son col. Voilà, c'est le côté très série noire, j'adore ça.
Alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ils sont invités à aller regarder sur YouTube, ils peuvent trouver quelques extraits. On va écouter du coup la bande-annonce de ce film de Louis Malle de 1958.
Oui.
Je t'aime. Je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Je t'attends. Je n'attends que toi. Vous n'avez pas vu Monsieur Tavernier ce soir ?
Non, madame.
Alors, cette musique magnifique de Miles Davis.
Oui, non, mais on s'en remet pas. Hein. On pourrait l'écouter jusqu'au bout de la nuit.
Qui était composée justement en regardant le film Ascenseur pour l'échafaud, en voyant les images. On voit très bien que ça fonctionne quand même pas mal, effectivement.
Un peu de talent, Miles Davis, quand même. Hein.
Un tout petit peu. Elle a été un peu connue.
Voilà. Vite fait, quoi.
C'est ça. Alors, du coup, ce film donc, qui t'a inspiré, qui a inspiré le personnage d'Alice, qui a inspiré peut-être l'histoire d'amour aussi entre Alice et Laszlo. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, justement, d'un film, on peut s'inspirer pour écrire quelque chose une histoire qui n'a pas forcément à voir d'ailleurs. Enfin, on est quand même dans
Tout le temps, moi, le cinéma, c'est presque ma passion première. C'est quand j'étais à la Sorbonne, j'avais pris d'ailleurs une option cinéma. C'est vraiment, c'est les images, un rapport très très fort au visuel, aux images. Et avant d'écrire, je regarde plein de films, ça me nourrit. Et j'ai plein d'idées qui naissent d'images, de films, de documentaires. C'est comme une règle, ça va avec ma règle d'écriture, ça fait partie de ma discipline artistique. Voilà, c'est une alchimie qui se produit avec une interactivité, je déteste ce mot en fait, interactivité, mais enfin bon, bref, je le dis quand même, entre les arts, voilà.
Et alors pourquoi ne pas avoir choisi d'écrire des scénarios et
mais
plutôt
j'aimerais
le roman
bien, il faudrait qu'un jour je fasse un atelier scénario. J'aimerais bien. Mais il y a une grande technicité. Hein. C'est quelque chose... Le dialogue, par exemple. Hein, bon, j'utilise beaucoup le dialogue indirect. C'est le dialogue direct, c'est difficile d'être un très bon dialoguiste. Hein. C'est, le nouveau roman a permis beaucoup l'introduction du dialogue indirect en littérature. Mais bon, sinon, c'est pas si facile que ça d'écrire de très bons dialogues. Donc, je pense qu'il faut se former. Moi, je crois à l'artisanat, de toute façon, dans l'écriture. Je suis pas... voilà, il faut garder beaucoup d'humilité. C'est très difficile, l'écriture. Et c'est quelque chose qui est vraiment perfectible, sans arrêt. Plus on écrit, plus on progresse. Donc... voilà mon avis.
Il faut travailler, effectivement, régulièrement.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui, justement, va forger un auteur ? Comment est-ce qu'on décide que c'est le moment d'écrire ? Parce que toi, Astrid, pendant longtemps, tu as été... Enfin, tu l'es toujours, d'ailleurs, tu as un blog, Laisse parler les filles, sur lequel tu fais surtout des critiques de romans d'autres auteurs. Alors, comment, à un moment donné, tu t'es dit, maintenant, c'est mon tour, j'ai envie d'écrire ? C'est quelque chose que tu avais en toi depuis très longtemps, j'imagine.
Mon heure est venue. je sais pas. Effectivement, ça a été progressif. Je l'ai en moi depuis très longtemps, quand même. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup. J'ai écrit beaucoup de poèmes, mais bon, la poésie n'intéresse pas grand monde, donc
c'est malheureux.
Oui, c'est très malheureux, mais bon, les poètes. Pour les romanciers, c'est pas évident. Alors les poètes. Voilà, c'est triste, mais c'est voilà, logique économique ne prend pas la poésie et ne met pas à l'honneur la poésie plutôt. Et beaucoup de poèmes que j'ai dans une grande boîte blanche. Voilà, je les garde précieusement. Peut-être qu'un jour, comme Michel Houellebecq. Michel, si tu m'écoutes.
On te souhaite d'avoir la carrière de Michel Houellebecq.
J'aime beaucoup Michel Houellebecq. Je pourrais les mettre en. Voilà, les faire publier. Et puis, après, des nouvelles. Donc, la forme courte, toujours. On dit beaucoup de choses dans les nouvelles. J'aime beaucoup la nouvelle. Pareil, genre un peu. Moins déconsidéré, hein. Très aimé en littérature anglo-saxonne. Il y a des gens comme Raymond Carver, comme Jim Harrison, comme Dorothy Parker, comme Truman Capote, qui sont quand même voilà, de grandes, grandes stars de la littérature, et puis qui sont essentiellement des auteurs de nouvelles. Et puis ensuite, la forme longue, par des ateliers d'écriture. Moi, je crois, voilà, toujours de l'artisanat, des ateliers d'écriture, écrire des petits textes courts, des micro-récits, passer à des nouvelles plus longues, et ensuite des nouvelles plus longues à des nouvelles encore plus longue, et ensuite, voilà, un roman.
Donc de manière progressive, plutôt que de vouloir se lancer dans le roman tout de suite.
Et très modeste, et avec beaucoup d'efforts, beaucoup de concours de nouvelles auxquels j'ai postulé, et où j'ai pas forcément eu de retour, et ça forge aussi le tempérament, et puis on se dit, en littérature, il faut vraiment pas se prendre la grosse tête, parce que c'est... une discipline artistique très difficile et il faut toujours se remettre en question, comme dans tous les arts de toute façon.
Et bien merci après tous ces conseils aux futurs auteurs. On va passer à l'entretien psy.
Déshabillez-moi.
C'est parfois un moment qui est un peu difficile pour certains, qui fait peur à l'avance, mais en fait, au final, ça se passera très bien. Alors, première question, Astrid, à quel moment tu t'es sentie écrivain ? Est-ce que c'était au moment où tu as commencé à écrire, au moment où ton premier livre a été publié ? À quel moment on se sent écrivain ? Ou peut-être que tu ne te sens toujours pas écrivain, je ne sais pas.
C'est une bonne question parce que ça me pose question, justement, à titre personnel. Et j'ai du mal à dire « je suis écrivain » encore. Il y a quelque chose en moi qui...
Alors, tu te dis quoi, là ?
Je préfère romancière.
Oui.
C'est moins écrasant.
Oui.
Et puis, j'ai une telle admiration pour la littérature. Voilà. Je pense à Céline, je pense à Sagan, je pense à Duras, je pense à Monterland, je pense à des gens que j'admire. Et du coup, je préfère dire romancière. Ça me... Voilà.
Justement, comment on fait pour se séparer de tout ça ? Parce qu'on a tous lu beaucoup, et quand on écrit, c'est qu'on lit beaucoup. Comment on fait pour se débarrasser du poids de tous les autres auteurs magnifiques qu'on a pu lire et qui ont un peu jalonné comme ça notre vie de lecteur ?
Bon, je ne sais pas si on se débarrasse, on les remercie déjà. Merci à vous. Mais il y a un côté, oui, c'est ça, ça peut presque faire perdre les moyens en se disant, voilà, là, je, par exemple, je me dis, je, voilà, je relis quelques passages du Voyage au bout de la nuit. Je dis, mais ouïouïouïouï, mais comment je vais faire? Mais comment j'ose même? Comment j'ose, moi, Astrid Manfredi, prendre mon stylo et puis écrire trois petites phrases là? Mais qui, pour qui je me prends? Mais bon, en même temps, il y a une nécessité d'écrire et c'est cette nécessité qui l'emporte. Voilà. Mais je dis romancière parce que écrivain, on verra dans deux ou trois livres.
Qu'est-ce qui est le plus dur? Deuxième question, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier de romancière?
Ce qui est le plus difficile, c'est que, en fait, moi, je sacralisais beaucoup le métier de romancière. Mmh. Je sacralisais beaucoup le monde littéraire. Et en fait, quand on y est confronté, même si on l'aime, hein, on se rend compte que, voilà, ça ne reste qu'un microcosme d'humain avec des petites voilà, des petits vices, des grandes humeurs, des petites choses basses parfois, puis aussi de très belles choses d'autres fois. Mmh. Donc voilà, il y a peut-être un petit désenchantement qui peut se créer par rapport au fait, voilà, entre le processus d'idéalisation et puis la réalité des choses. Voilà, se confronter à la réalité, voilà, c'est toujours peut-être...
chose de délicat.
De délicat, oui. Mmh.
Alors Astrid, quand tu écris, pour qui est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris pour toi d'abord, pour ton éditeur, pour tes lecteurs? Pour qui est-ce que tu écris?
Pour mon éditeur, sûrement. Même si je l'aime beaucoup, hein, je vous salue au passage. Je suis très sympa, vous inquiétez pas. Mais pour mon éditeur, non, parce que de toute façon, personne ne pourra me faire écrire ce que j'ai pas envie d'écrire. Ou sinon, bah, je changerai de crèmerie. Mais l'idée d'écrire pour les lecteurs, je trouve que c'est aussi un peu limite. Comme quoi, bon, voilà, il y aura un lectorat, un certain type de lectorat, il faudrait écrire pour lui. Sûrement, peut-être certains le font, ou certaines, mais moi, c'est... j'ai pas envie d'aller là-dedans. Pour moi, bon, j'écris pour... c'était quoi la phrase que tu m'as dit? Le sentiment d'éclat, c'était quoi?
Allez.
Il faut que je la retrouve. L'éclat de l'existence, c'est ça?
Pour l'éclat de l'existence, voilà.
C'est ça, on écrit pour soi.
Voilà, mais pour un soi...
mais bien sûr
empathique,
que...
hein, oui, un bien soi, sûr. Pas un soi replié, tu vois, c'est pas le soi, le petit soi,
oui,
hein,
bien sûr.
Le petit quant à soi, c'est un soi qui...
C'est le soi qui est objectif.
Objectif, voilà, c'est pas...
Qui embrasse l'objectivité. Qui...
Voilà. Oh là là.
Ça devient trop sérieux cette émission. Alors, Edouard, peut-être une dernière question?
Oui. Quelle est votre plus grande crainte pour demain? Est-ce que, justement, est-ce que c'est un roman social? Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman social? La Petite Barbare ou...
Ou Havre-Nuit.
Ah, les deux, oui. Oui. Il y a une dimension sociale, oui.
Quelle, la crainte, quelle est la crainte aujourd'hui pour vous, en tant que romancière, la confession que vous pouvez faire à l'existence, au temps, en fait, à travers ce roman?
La crainte, c'est de voir l'espace de liberté se réduire. Voilà, ça c'est une de mes grandes craintes, parce que je suis une génération où l'espace de liberté était très important. C'était un peu ni Dieu ni maître, hein. Moi c'est un peu ma génération quand même, hein. C'est un peu ce que j'ai, et oui, j'ai un peu grandi dans cette
génération, oui, qu'on aimerait avoir connue effectivement, mais...
Et je le reconnais, et par moments quand voilà, on est forcément confronté aux réseaux sociaux, tout ça, et que j'ouvre les yeux et que je me confronte au réel, je me dis, mais j'ai dû rester endormie pendant un sacré bout de temps, et ça serait un peu comme une belle au boire de roman qui se prendrait un grand coup de pied aux fesses. Et voilà, ça me fait peur, quoi. La dimension liberticide me fait très peur, moi, en tant que romancière. Voilà, je trouve que voilà, c'est sûrement une de mes craintes principales. Et puis aussi l'insécurité, voilà, l'insécurité...
D'où le rapport à la violence dans votre dernier roman, en fait.
Oui, oui. Et l'insécurité, je pense que je ne suis pas la seule à la ressentir, hein. L'insécurité matérielle, le fait qu'il faut beaucoup rebondir. On est dans une société où il faut être très agile. Et je plains les gens...
Oui, le funambule.
Voilà, je plains les gens qui ne sont pas forcément armés pour ça. Donc comme j'ai une nature très empathique, je pense beaucoup, voilà, à tous ces gens qu'on laisse un peu sur la touche. Ça fait partie de mes craintes, oui.
Voilà. Bien, merci, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission, de cet entretien. Merci beaucoup Astrid Manfredi d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'entretien psy. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est moi, merci Mélanie,
Edouard. Un plaisir. Merci. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots le prochain roman qui devrait arriver quand alors?
Je dois le terminer, il n'est pas encore complètement, il s'appelle Trouver le sable, donc il est pas complètement terminé encore, j'espère le finir ce printemps ou cet été, et puis là, plein de belles choses qui vont arriver, je l'espère, pour Avre-Nuit, et beaucoup déjà de bons retours de libraires, de lecteurs, et puis je laisse le soin à mon attaché de presse de s'occuper du reste.
Bien qu'elle travaille un petit peu aussi. Voilà. Alors je vous rappelle donc qu'on peut retrouver les deux romans d'Astrid Manfredi, La Petite Barbare et Avre-Nuit.
La Petite Barbare est en poche aussi.
En poche
c'est
aussi,
sympa
c'est
pour
vrai.
Les gens qui n'ont pas, voilà, un peu forcément, faut le dire, parce qu'un livre c'est quand même un budget, donc il est en poche chez Pocket. Voilà.
C'est ça, puis vous pouvez le trouver aussi à la bibliothèque, comme l'a fait Edouard.
À la bibliothèque, exactement.
Évidemment. Et puis, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. Et puis, on insiste encore mais sur le fait qu'il faut aller acheter ses livres en librairie et pas dans les
exactement.
Gros supermarchés commerciaux dégueulasses qu'on n'aime pas beaucoup. Alors, Déshabillez-moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les précédentes en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Merci à Edouard. Pour
merci
la co-animation de cette émission.
Merci
et puis à Christophe, bien sûr, pour la réalisation technique de l'émission. On vous retrouve dans un mois. Belle soirée sur Radio Campus Paris.